bien, je vais me présenter. Voilà, je me présente, donc je suis le docteur Sermier, je suis homéopathe, je suis installée donc dans le Var, où j'exerce donc aussi bien l'activité de médecine générale et d'homéopathie. Alors je vais donc, pour commencer à soulever donc cette question, qu'est-ce qu'une IVG ? Oui.
Je suis pas sûre qu'on n'entend pas très bien.
Vous entendez mieux là ? Voilà, je pense qu'en me collant au micro, peut-être que ça va aller mieux. Alors, je vais peut-être le prendre. Voilà. Donc, là, voilà comme ça. Donc, pour répondre déjà à cette question, donc qu'est-ce qu'une IVG ? Donc, j'ai commencé donc par effectivement commencer par dire que c'est une question donc qui est si simple, et pourtant son élucidation n'en est pas moins complexe. Le terme même d'IVG est en lui-même porteur d'une ambivalence. À côté du sens d'interruption volontaire de grossesse, les initiales font évoquer de même l'insuffisance ventriculaire gauche. Autrement dit, une insuffisance de cœur. Le cœur de qui ? N'oublions pas que la grossesse implique une triade, mère, père, enfant. Une IVG, il s'agit d'une grossesse chez une femme qui ne peut supporter son état et qui est dans le désir d'interrompre le processus vivant dont le déroulement naturel aboutirait à la naissance d'un enfant. Il y a un refus des lois biologiques naturelles, mais il y a aussi un sentiment profond, conscient ou inconscient, de culpabilité, qui s'ajoute à un sentiment de responsabilité confuse devant son impuissance sociale. À cette demande, la médecine propose donc pratiquement deux méthodes. D'une part, l'IVG médicamenteuse, le RU, dont on a parlé un petit peu ce matin, qui est une pilule abortive provoquant une expulsion naturelle de l'embryon, équivalent d'une fausse couche. Moyen possible pour les grossesses de moins de 7 semaines d'aménorrhée. C'est certainement un moyen moins traumatisant, tout du moins pour le conscient, car pour l'inconscient, l'impact sera, quelle que soit la méthode, le même. Elle permet d'éviter l'hospitalisation et surtout toute intrusion instrumentale dans le corps. La douleur des contractions utérines, bien que pouvant être atténuée par des analgésiques, peut présenter une certaine garante de l'acte lui-même en tant que principe de réalité. L'autre méthode en général proposée est une méthode qui est donc chirurgicale, qui est une technique par aspiration, pouvant être pratiquée jusqu'à la 14e semaine d'aménorrhée en France, se faisant donc essentiellement sous anesthésie locale. Elle nécessite par contre une hospitalisation, on devient malade, le regard et l'estime de soi en est certainement plus abîmé. Et comme on l'a évoqué ce matin, c'est vrai qu'en fait, bien que le RU semble être une méthode plus douce, elle n'en est pas moins dans ses conséquences. C'est vrai que dans ma pratique, quand les personnes me parlent de RU, j'ai pu remarquer certaines dissociations, c'est-à-dire que des personnes me disant qu'elles ont senti en fait le moment où elles ont vécu cette expulsion comme étant traumatisante, d'autant qu'elles se retrouvent seules, qu'elles sont dans l'angoisse de savoir si tout est expulsé, et elles vivent cette expérience dans une grande inquiétude. Et puis d'autres qui, par contre, l'ont vécu comme si c'était des règles, comme si, en fait, on leur a donné une pilule, ils ont eu leurs règles, et en fait, il n'y avait pas eu de problème, sans décrire de terribles douleurs. Pour les aspirations, il en va de même. Moi, j'ai remarqué autant des personnes qui l'ont bien vécu, je mettrai ça entre guillemets, bien sûr, et d'autres personnes qui ont été donc très traumatisées, d'une part, par le personnel, mais ce n'est pas tant le personnel qui a été traumatisant, c'est bien sûr ce qu'elles ont pu projeter. Et c'est vrai que je m'en suis fait la remarque en me disant, c'est un petit peu comme les jeunes femmes et les femmes qui ont des douleurs de règles. C'est vrai qu'autant il y a des femmes qui vont décrire des douleurs de règles épouvantables, et puis d'autres qui, au contraire, n'ont jamais eu aucune douleur lors des règles. Mais comme on l'a évoqué ce matin, donc je passerai donc sur ce sujet. Par contre, je vais vous évoquer, donc comme je l'avais signalé dans cette ambivalence que j'ai donc vue dans le mot IVG, cette insuffisance de cœur. Et c'est par le cas de Corinne qui m'amène à vous parler donc de cette insuffisance de cœur. Corinne est une jeune femme de 30 ans qui est indépendante, autonome, vivant depuis quelques années une relation qui lui convient avec un homme marié. Ce dernier a toujours été clair qu'attend son non-désir de divorcer. Suite à un oubli de pilule, Corinne tombe enceinte, ce qui la plongea dans une confusion, partagée entre son désir d'avoir un enfant et la réaction de rejet de son ami. C'est ainsi qu'elle absorba donc le RU, le décrivant des douleurs physiques à la mesure de sa souffrance morale. Lors de ce tourment, elle s'est sentie, me dit-elle, incapable d'aimer seule cet enfant et totalement reconfrontée à son enfance. Elle-même élevée par une mère célibataire dont elle ne s'est pas sentie aimée ou fantasmée comme telle, comment aimer quand on s'est vécu non aimée ? Comme si l'insuffisance d'amour, même fantasmée, ne pouvait engendrer que l'interruption. De cette insuffisance dont il faudra grandir, ne pourra se faire que dans une rencontre avec soi, réélaborer les différentes étapes, amener à se renarcissiser et ainsi se sentir capable. Aimer, c'est se sentir aimable. C'est aussi dans le cadre de cette insuffisance d'amour qu'est l'angoisse de perte, perte de l'amour de l'autre, que bien des scénarios peuvent se vivre. Quand dans le couple, où l'enfant peut représenter le rival, ravissant l'amour du père ou de la mère, que bien des conflits peuvent se faire jour. C'est le cas de Julien, marié, ayant déjà un fils avec lequel il se vit déjà en totale rivalité. C'est alors que sa femme se retrouve enceinte et c'est en véritable dictateur qu'il imposa à sa femme l'IVG, refusant l'idée même d'avoir un autre enfant. Julien a été élevé par trois femmes, sa mère, sa grand-mère maternelle et sa sœur aînée, en véritable emblème phallique. Son père était parti à ses 4 ans et ne l'a plus revu. Ce qui lui importe dans le couple, c'est sa femme, je dirais même sa mère, prolongeant ainsi ses désirs fusionnels incestueux. Restant fixé à un stade très oral où ni la distance normalement posée par la mère, ni la différence posée par le père ont été établies, et cette séparation prématurée avec le père ont laissé libre cours à ses fantasmes d'avoir évincé le père, le laissant ainsi dans une relation oedipienne, d'où une culpabilité et une angoisse de castration, se réactivant à l'annonce de cette nouvelle grossesse. Mais aussi ce départ du père, laissant la place au sentiment d'abandon, et tel un abandonnique, c'est en menaçant d'abandon qu'il prend le pouvoir. Sa femme, elle-même, dans une angoisse de perte, peur de perdre l'amour de son conjoint, qu'elle se soumit à ce choix. C'est ainsi que ces fragments d'histoire rapportés permettent de réaliser comme l'IVG représentative de toute une problématique où la décision peut être difficile. Et c'est en bénéficiant d'un travail psychologique que la femme, que le couple peut franchir cette étape. Comprendre qu'un oubli de pilule, un acte manqué, une IVG, est un événement qui a un effet dynamique, inconscient, structurant ou déstructurant de la vie symbolique de la femme et de l'homme avec elle responsable de cette grossesse interrompue. Comprendre que l'IVG n'est pas un simple effacement technique d'un moment de la vie génitale et que l'IVG ne soit pas ainsi ramené à une simple contraception. Alors que la contraception est désormais accessible à toutes, il est surprenant de noter aussi bien l'augmentation du nombre d'IVG en général que le nombre d'IVG par femme. Le nombre d'IVG chez les adolescentes est loin d'être négligeable. La réponse médico-sociale consiste en une meilleure information sur la contraception, et pourtant. Selon l'étude du professeur Usan, chez les très jeunes femmes avant 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse est l'issue de plus d'une grossesse sur deux. Si l'on admet de nos jours que les maternités à l'adolescence sont en majorité non désirées, certaines sont même subies par la force et la violence. Cependant, certaines sont voulues pour des motivations très variées. Désir de prouver sa féminité, d'exister, de prouver son indépendance, de lancer un cri d'alarme. Comment à cet âge encore si précoce, une adolescente est-elle prête à sacrifier une partie de son adolescence ? Le corps est au centre de la plupart des conflits à l'adolescence. La transformation morphologique pubertaire, l'irruption de la maturité sexuelle remettent en cause l'image du corps que l'enfant avait pu constituer progressivement. Philippe Jamet parle de cette période comme une sorte de passage à l'acte de la nature qui tout d'un coup donne à l'adolescent un corps d'adulte, sans que l'adolescent en ait choisi le moment. Pour les deux sexes, un phénomène d'étrangeté du corps se met en place. C'est le passage de la sexualité dite infantile à une génitalité dite adulte. La puberté apparaît après la phase de latence où l'on observe une désexualisation des relations d'objets et des sentiments, phase où le surmoi a intégré l'interdit de l'inceste et des interdits parentaux. Période correspondant à une poussée libidinale plus faible, libido récupérée qui va servir à la sociabilisation de l'enfant et lui permet d'accéder à la sublimation. C'est un état de transformation de la libido. Puis, la puberté apparaît vers 12 ans, où les désirs refoulés réapparaissent. Réactivation de l'Œdipe. Ressurgit alors le vif de cet amour déçu, soit la rivalité, le désir de mort pour l'autre parent du même sexe, et aussi les tentatives de séduction. La génitalité correspond à la maturité sexuelle, mettant en place la capacité orgasmique et de reproduction. Pour cela, il est nécessaire d'accéder à la reconnaissance de cette nouvelle puissance dans son propre corps et la nécessaire complémentarité des sexes. La construction de l'identité sexuelle provient d'une élaboration de l'enfance à l'adolescence, produit de l'entrecroisement des transactions narcissiques et objectales. La ligne narcissique consiste en une reconnaissance du sexe que j'ai et de celui que je n'ai pas. La puberté confronte le sujet au manque fondamental et structurel qui constitue toute personne. C'est la phase d'acceptation de la castration symbolique. Cette différence prend une autre dimension à l'adolescence. Ce n'est plus une simple curiosité psychique, mais un éprouvé corporel qui peut être une source d'angoisse. Source d'angoisse pouvant conduire l'adolescente à ne pas vouloir être une fille, et le garçon ne veut pas être un garçon. C'est comme si les instances corporelles avaient peur de s'abîmer. Et la pathologie consiste à penser « et si l'échec me préservait ?» D'autant que le combat est toujours le même pour l'individu, c'est-à-dire se préserver de la temporalité pour gagner du temps. Ce qui revient à ne pas devenir adulte trop rapidement, c'est le principe économique, le conduisant à faire le contraire des parents, croyant ainsi échapper à la vieillesse. Dans l'inconscient, il y a opposition à la réussite. De même, au niveau du corps, l'adolescente peut alors tenter de bloquer le développement du corps, par exemple ce qu'on peut voir dans l'anorexie. Puis dans la suite de la ligne narcissique, nous voyons que l'autre est pourvu de ce qui me manque. Phase de reconnaissance de la complémentarité, par conséquence, l'acceptation de la dépendance pouvant être perçue comme une menace d'aliénation. Puis, la réalisation sexuelle possible réactualise les fantasmes de la scène primitive, où deux fantasmes sont dominants, où le vagin n'est pas dangereux pour le pénis, phase de neutralisation de l'oralité agressive, symbolisée par le fantasme de la dangerosité du contenant pour tout contenu. Et enfin, le pénis n'est pas dangereux pour le vagin, phase de neutralisation de l'analité agressive, symbolisée par le fantasme de la dangerosité du contenu pour tout contenant. La troisième ligne de réaménagement de l'investissement à l'autre, l'adolescent est poussé vers son objet incestueux, mais en même temps, il existe une menace d'engloutissement mortifère. De même, il se sent poussé vers le parent du même sexe, mais survient la menace de la confusion identitaire. C'est ainsi que l'adolescent s'éloigne de ses parents. Pour chercher auprès des pères, P-A-I-R-S, surtout ceux de son sexe, les étayages nécessaires. Mais ce plaisir d'être tous semblables rapproche du risque de l'homosexualité, dont il se dégage quand il découvre l'objet d'amour avec un autre différent de soi, mais se retrouve ainsi confronté à l'altérité de l'autre, c'est-à-dire le sentiment de solitude. Ainsi, la première question que se pose l'adolescent est celle de la normalité de ses organes et de ses fantasmes. Autant pour le garçon, il existe une équation égalitaire entre érection, masturbation, éjaculation, fertilité, autant pour la fille, la réponse sur la normalité reste cachée. Suis-je fertile? Puis-je avoir un enfant? Ou alors j'ai envie d'un gros ventre? À côté du désir de grossesse, le désir d'enfant s'impose parfois comme une solution à ses difficultés. C'est faire disparaître l'enfant qu'elle a été, d'obtenir le statut de mère et aussi s'identifier à la mère. Pourtant, les études montrent qu'elles ont souvent eu des mauvaises relations avec ces dernières. C'est peut-être une manière d'attaquer sa mère en s'appropriant son statut. La grossesse condense dans cette attaque du corps un double mouvement agressif, attaquer son enfance, attaquer sa mère. Selon le travail de Erin Cole, le désir d'enfant semble étroitement lié à une mauvaise estime de soi, alors que la survenue d'une grossesse chez la jeune adolescente, 13-15 ans, semble corrélée à la dimension d'impulsivité et d'agressivité. Pour l'adolescente, accéder à la sexualité génitale, c'est faire l'expérience d'une frustration qui vient de l'intérieur même du corps. Loeffler a proposé le concept de rupture pour comprendre le sens de ce retournement pulsionnel contre le corps propre. Les filles se tournent plus volontiers vers l'attaque directe de leur corps, comme dans les tentatives de suicide, boulimie. D'ailleurs, il est à noter le lien fréquent observé entre les tentatives de suicide peu avant ou peu après les grossesses, et même les IVG. Ces grossesses impulsives surviennent dans le cadre d'ailleurs de rapports non protégés, véritable passage à l'acte. En conclusion, il faut insister sur la nécessité d'entretien lors de ces grossesses, qui aboutissent souvent à des IVG. Car ces grossesses qui peuvent apparaître comme des moyens de conquête d'identité, cette maternité précoce aboutit à des effets de rupture développementale, rigidification des principes identificatoires, régression et des rejets répétés. Et je finirai pour conclure sur donc l'adolescence par un mot de Winnicott qui a dit que l'immaturité est un facteur essentiel de la santé durant l'adolescence. Il n'y a qu'un remède à l'immaturité, c'est le temps qui passe et la croissance que permet le temps. Les deux réunis finissent par donner naissance à l'adulte. Ce processus ne peut être ni accéléré ni ralenti. Enfin, nous allons aborder donc les conséquences de l'IVG. Avant la légalisation de l'IVG, l'IVG se pratiquait dans des conditions de telle précarité que les conditions médicales étaient graves sur le plan somatique. Perforation utérine, péritonite, salpingite, pouvant occasionner des stérilités post-traumatiques et mettant en danger de vie la parturiente. Ceci nous permet de dire que la transgression de la loi et la culpabilité consciente ou inconsciente de l'IVG laissent apparaître au premier plan les séquelles corporelles. Les séquelles psychologiques étaient d'autant plus refoulées que ce vivant dans le secret. Depuis la légalisation, les IVG se pratiquent, comme on l'a vu, dans des conditions de surveillance médicalisées. Les conséquences sont donc changées de visage. Et pourtant, les traces mnésiques persistent, et c'est ainsi qu'elles peuvent être à l'origine de certaines stérilités psychogènes. La stérilité se traduit en analyse en termes d'impuissance, qui engendre les différents processus d'échec, autant au niveau professionnel qu'affectif. C'est ainsi le cas de Christine. Christine est enceinte en retour de couche, et elle avait demandé de l'aide à sa mère, mais cette dernière, n'entendant pas sa demande de sa fille, elle-même consacrée au chevet de ses propres parents, l'incita à faire une IVG. Ce que Christine fit. C'est au cours des années suivantes qu'une stérilité rebelle s'installa. C'est dans le cadre d'un travail psychologique qu'elle put exprimer toute sa souffrance de ce qu'elle avait vécu comme un abandon de sa mère, ce fantasmant elle-même mauvaise mère de n'avoir pu protéger son deuxième enfant. Et ensuite, nous verrons un cas un petit peu particulier, puisqu'en fait, nous allons voir que c'est un cas qui découle d'une IVG qui avait été manquée et qui avait quand même laissé des traces familiales. C'est le cas de Anne, qui présente une stérilité et c'est lors d'un travail analytique qu'elle en a découvert le sens. Sa relation avec sa mère, dépressive, n'a été que conflit. En opposition permanente, Anne se remémore comme elle se sentait incomprise et comme elle ne la comprenait pas, aboutissant à une difficulté d'identification à la mère. Elle se savait non désirée. En effet, sa naissance se présentant au moment où son père militaire était en déplacement lors d'une mission dangereuse. Son père, donc, souvent absent, fut un homme idéalisé de tous, d'autant de sa fille. Un homme brillant, cultivé, certes autoritaire, mais dont elle s'est sentie très proche, quasiment favorite. Restant, pour ainsi dire, dans une relation incestueuse, encore très présente lors de son travail. C'est en recherchant s'il existait des secrets de famille, à propos de la maternité, des traumatismes de naissance, etc., qu'elle apprit que sa mère n'aurait jamais dû naître, du fait de tentatives d'IVG pratiquées à son égard. Justifiée par la grand-mère, donc maternelle, par le fait que déjà, mère de 5 enfants, et ayant auparavant élevé ses frères et ses sœurs, elle ne pouvait accueillir cette 16e enfant. La mère de Anne a non seulement gardé les traces mnésiques de ce rejet, mais les a réactualisées lors de la grossesse de sa fille. Ce travail a permis à Anne d'appréhender sa mère, de comprendre combien celle-ci était dévalorisée, ne trouvant pas sa place, sa faible estime d'elle-même, allant jusqu'au désir inconscient de s'effacer, se vivant de trop. En cédant sa place à sa fille auprès de son mari, laissant ainsi se pérenniser une relation oedipienne enfermante, où la fille, plus tard, dans une loyauté au père, restera fidèle au père, soit en se réfugiant dans l'intellectualisme ou dans la religion. Ainsi, à travers l'histoire de Anne, nous avons pu voir les certaines causes de stérilité psychogène et comme une IVG n'est jamais un acte anodin. À propos du remboursement, pouvons voir qu'après la légalisation de 1975, le remboursement de l'IVG a pris effet en 1982. Le remboursement, pris en charge par la Sécurité sociale, autrement dit, c'est la société qui prend en charge, qui le prend en charge. L'effet pervers du système est que cette protection va concourir à la banalisation, entre guillemets, hein, de l'IVG, et parfois même en faire une contraception. D'où l'interrogation à propos du paiement. Freud a parlé de l'influence correctrice du paiement. L'argent est au service du principe de réalité. Et Freud a établi le lien entre les pulsions prégénitales et l'analité, et les problèmes d'argent. Lors de l'analyse, c'est un acte symbolique, intégré à la règle, permettant à l'analysant de se libérer d'une dette, en s'acquittant de ses désirs inconscients. Mais le geste de paiement n'a d'influence correctrice que pour celui qui peut l'accueillir comme tel. L'IVG est un symptôme transgénérationnel, générant une dette. Être remboursé, c'est faire payer les autres à sa place, donc alourdir le poids de la culpabilité, alourdir cette dette. En analyse, on se doit de s'acquitter d'un acte manqué, d'où la nécessité de payer même lors d'un rendez-vous manqué avec un enfant. Gérer son IVG, ne serait-ce pas plutôt d'accepter son acte manqué ? Ce qui permet alors de lever les résistances et en conséquence d'y mettre un terme, de rendre possible une nouvelle maternité. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse la parole si vous avez désir de poser des questions.
Des questions, des commentaires ?
Merci. Je suis Chantal Blavier, je finis donc une formation de conseillère conjugale et je fais un travail sur l'entretien pré-IVG en orthogénie. Ma question est que, en ce qui concerne les adolescentes et toutes les jeunes femmes qui ne peuvent pas avoir accès à l'idée de la maternité ou de la maternologie, comme on dit, je vous entends pas ?
On entend très mal.
Oui, chez toutes ces jeunes femmes, en fait, il est impossible d'arriver lors d'un entretien de les faire mûrir, parce que vous dites très bien qu'il y a il faut de l'espace et du temps, donc on ne peut pas faire mûrir les gens trop vite, mais il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour les aider. Est-ce que le fait de leur dire plus tard, il se peut que cette IVG refasse surface à travers d'autres événements de la vie, est-ce que c'est possible à dire ou est-ce que c'est plutôt dangereux ?
Si j'ai bien compris, c'est en fait savoir si leur faire prendre conscience que cet acte puisse avoir des conséquences plus tard, si
choses, est-ce que ce sont des choses qu'on peut être amené à évoquer ou est-ce qu'il vaut mieux les taire? C'est-à-dire que de toute façon, on est dans une situation où on ne peut faire que de, comment dire, que de la contenance et que accepter les gens comme ils sont et être là à côté d'eux, hein, pour les soutenir. Mais comme on sait que de toute façon, l'IVG plus tard va réapparaître lors d'un autre événement, un deuil, au moment de la crise du milieu de vie ou d'un autre moment, est-ce que dans un entretien, on peut se permettre d'évoquer que ça aura une influence dans la vie plus tard ou pas? C'est ça la question qu'on va poser.
C'est vrai que toujours de pouvoir parler, c'est une question de moment, de savoir où la personne en est. Mais je crois qu'en fait, bon, face à cette adolescente, comme j'ai pu l'évoquer, qui d'autre part, il y a d'autres choses qui se jouent à travers cette grossesse, voulue ou non voulue, bien sûr. Elle est sous l'emprise bien souvent donc, des parents qui prennent bien souvent la décision pour elle aussi. Donc, c'est à mon avis, c'est possible d'envisager avec elle la possibilité qu'elle fasse un travail, puisqu'en fait, cet acte ne sera pas anodin dans sa vie, mais sans chercher à la culpabiliser, en fait. Je crois que c'est ça qui reste important, voilà. Mais qu'elle puisse évoquer le fait que d'en reparler, quand elle en éprouvera le besoin, justement en sous-entendant que ça peut avoir des conséquences plus tard.
Est-ce que vous pouvez dire plus clairement quel type de conséquences cela peut avoir?
Mais personnellement, là, j'étais en train de penser, donc essentiellement, ne serait-ce qu'à la culpabilité provoqué une grossesse. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce qui est interpellant, c'est à l'heure actuelle, où quand même il y a beaucoup de campagnes sur de l'information par rapport aux préservatifs, par rapport aux contraceptions, et de voir comme ces adolescentes s'exposent au cours d'actes. Et c'est vrai qu'en fait, bon, par rapport aux conséquences qu'il peut avoir dans sa vie de femme adulte, quand elle redésirera d'avoir un enfant, il pourra ressurgir, en fait, cette grossesse, ce rendez-vous manqué, en fait. Et c'est vrai qu'en même temps, quand je vous dis ça, moi, je me rappelle d'une de mes patientes qui a eu une grossesse très jeune, à 15 ans. Donc, en fait, je lui demandais comment elle l'avait vécu, et elle me disait, oh, mais non, très bien, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, ma mère m'a accompagnée, elle était tout le temps avec moi, etc. Et c'est vrai, au fur et à mesure que je parlais avec elle, je me rendais compte comme elle ne l'avait pas vécu dans son corps. C'est comme si ce n'était pas elle qui avait fait l'IVG. Elle n'était pas concernée. Ce n'était pas son histoire.
Je vous trouve très, très optimiste en disant que la société actuelle informe les jeunes et qu'il y a beaucoup d'informations. Je ne suis pas tellement convaincue que ça passe aussi bien que ça. Est-ce que
je pense que l'information passe mal, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en parle, bon, c'est quand même évoqué dans les écoles, aussi bien dans les nouveaux cours qui ont été mis en place, mais ça passe très mal, parce que c'est vrai que c'est incroyable de voir comme la contraception est pas utilisée, en fait. Ou alors très vite abandonnée. Quand j'ai regardé les statistiques, pour savoir un petit peu comment se fait-il qu'il y ait autant d'adolescentes qui se retrouvent enceintes, alors c'est vrai qu'elles avaient utilisé la pilule, mais bien souvent elles l'avaient arrêtée, et quand elles ont eu un nouveau petit copain, ben elles n'ont pas pensé à la reprendre, en fait.
Ça explique bien, hein. Je veux dire, c'est quelque chose... une gamine de 15 ans, elle ne va pas prévoir, la plupart, je pense, de vos enfants de 15 ans ont du mal à imaginer qu'ils vont avoir des rapports sexuels. Ça arrive un petit peu comme ça. Est-ce qu'une gamine, à partir de 15 ans, on lui propose systématiquement la pilule? C'est quand même quelque chose qui est difficile, non, pour un éventuel rapport sexuel. Enfin, je ne sais pas, je trouve que c'est quand même très compliqué et qu'il y a un gros travail d'information qui n'est pas suffisamment fait parce que... je ne sais pas.
Bon, c'est vrai que je vois lors de mes consultations, enfin, je vais aborder la pilule, que si elle me le demande, que si j'ai une demande ou j'ai un espace pour pouvoir parler de la contraception. Mais si elle ne me le demande pas, c'est vrai que je ne vais pas, parce qu'elle a 15 ans, lui en parler.
Oui, moi je suis Lila Francos, conseillère conjugale et familiale en Ariège. Et donc je voulais faire part justement par rapport à ce questionnement que l'information, il n'y a pas bien sûr que l'information, hein, que l'information elle est vraiment, c'est pas le point essentiel. Il y a bien d'autres choses qui se jouent à travers les oublis de pilules.
Bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr, c'est pour ça que je parle d'actes manqués.
Oui, bien sûr, il y a bien d'autres choses. Et justement, il peut se poser la question, par exemple, lorsqu'on fait des informations dans les structures scolaires, de quelle façon les fait-on aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on va amener de la pure information? Ou alors, moi, je pense que c'est plutôt intéressant d'être sur des groupes de parole, sur de l'échange, et puis après, l'information viendra après, mais commencer par là.
Oui, je suis tout à fait d'accord, oui.
Bonjour, je suis Claire Baudin, infirmière. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez de la dernière loi sur l'IVG avec l'allongement du délai par rapport au temps.
Disons que je laisserai ma parole à mon confrère parce qu'elle va le développer dans son intervention. Donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit elle qui le développe.
Moi, je voudrais demander aux personnes qui s'occupent des entretiens pré-IVG si elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent dans ces entretiens. Moi, je ne sais pas. Et parce que je suis psychologue installée en cabinet et j'ai chez moi des gens qui viennent. Mais j'ai eu un monsieur qui regrettait amèrement d'avoir fait faire un avortement parce qu'il avait un enfant normal et un enfant handicapé. Et alors, il s'est rendu compte, après coup, que cet enfant handicapé allait peser de tout son poids sur un seul autre enfant. Alors, il me disait, si on avait eu un autre, il y avait eu deux enfants normaux, ça aurait été quand même mieux. Et puis, on pouvait bien, après tout, avoir un troisième enfant. Alors, je trouve que c'est vraiment grave qu'ils aient pas mesuré ça avant l'avortement. Bon, ça, c'est une chose. Un autre cas, eh bien, une fille, qui, maghrébine, dont le père a tué la mère et s'est suicidé ensuite devant elle, devant les enfants, donc un truc très grave. Elle a été suivie en psychothérapie tout le long de son enfance jusqu'à l'âge adulte, mais elle a fait un avortement. Et alors, finalement, elle se retrouve vers 28 ans, sans mari, ne désirant pas se marier, au fond, vu ce qu'elle avait vu vivre par ses parents. Bon, alors, au fond, pourquoi est-ce que la psychologue qu'elle a vue, très rapidement, aussitôt, juste avant le rendez-vous de la psychologue, elle n'a même pas pu réfléchir après, et pourquoi la psychologue ne lui a pas fait mesurer qu'allait-elle se marier? Alors oui, parce qu'elle regrette maintenant d'être seule. Elle est seule, si j'avais cet enfant. Voilà. Alors, je trouve que c'est lamentable qu'elle n'ait pas été amenée à plus de réflexion avant de faire l'IVG, ces deux femmes-là. Voilà.
Oui, donc, quelle est la question?
La question, c'est que je demande aux personnes qui s'occupent ici de faire des entretiens IVG, est-ce qu'elles ont toute l'attitude pour faire vraiment réfléchir la future opérée? Est-ce que simplement elles écoutent et doivent l'aider, l'accompagner, ou est-ce qu'elles la font réfléchir? Est-ce qu'elles ont le droit de la faire réfléchir sur ce que sera leur plus tard? Deux femmes qui regrettent là amèrement d'avoir pas gardé l'enfant. Alors je trouve ça lamentable. Et puis alors la première qui est mariée donc et a deux enfants dont un handicapé. Alors elle veut plus. Elle veut plus maintenant entendre parler d'enfants parce que alors encore avec cette IVG qu'elle a dû faire, elle peut plus assumer maintenant. Bon. Donc. Et puis la deuxième, la jeune fille maghrébine, elle est seule maintenant. Voilà. Alors je trouve que c'est lamentable ces IVG là.
Oui, alors le docteur Sermier me demandait si je voulais répondre. Une rencontre comme aujourd'hui, en fait, répond à votre inquiétude et à votre questionnement, dans la mesure où, en ce qui me concerne, je me bats, et j'ai envie de dire malheureusement, contre cela, parce qu'il y a des choses qui sont lamentables. On n'est pas beaucoup aidé par les médecins, nous, en tant que psychanalystes, certainement pas par les structures hospitalières. Et c'est vrai qu'il y a un vide. Il faut savoir aussi que, à notre sens, en tant qu'analyste, un psychologue n'a pas fatalement non plus la compétence pour bilanter des jeunes femmes qui demandent une IVG de façon très névrotique. Et c'est pour ça aussi qu'on est réunis aujourd'hui et tout au long de l'année 2002 quant à des sujets extrêmement sensibles. Je trouve que votre révolte est intéressante et en ce qui me concerne, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle avalise encore une fois mon combat, mais je crois que c'est surtout aux chefs de service des hôpitaux. Je crois que c'est au directeur de ce type d'établissement à qui il faudrait poser la question. Malheureusement, en ce qui me concerne, chaque fois que j'ai essayé de poser des pierres, je n'ai pas véritablement été entendue. Les réponses ne sont jamais celles que l'on pourrait en attendre. Et c'est vrai qu'il y a de fait une banalisation de cet entretien. Ça sera peut-être évoqué là cet après-midi, je ne sais pas. Mais il faut savoir qu'une IVG ne laisse jamais, bien sûr, une jeune femme indemne. C'est une évidence. et qu'il y a aussi des dépressions très graves qui interviennent quelque temps après l'acte, et ça, personne n'en parle non plus, et des dépressions donc qui peuvent entraîner bien sûr des suicides, etc. Et là aussi, il y a un silence total, c'est un sujet qui est tabou, mais effectivement, je crois que c'est vraiment au chef d'établissement qu'il faut poser la question. Moi, j'aimerais bien que le docteur Cheras réponde. On n'est jamais d'accord sur ce sujet-là, tous les deux, mais je suis très très heureuse de cette question.
Oui, donc je crois qu'il ne faut pas trop demander aux médecins. Dans le cadre des entretiens pré-IVG, il faut bien comprendre d'abord qu'ils ont été supprimés par la nouvelle loi, sauf en ce qui concerne les mineurs. C'est-à-dire que cet entretien, qui était une obligation prévue par la législation jusqu'à présent, ne l'est plus depuis la loi de juillet. Donc c'est un premier point, sauf pour les mineurs. La deuxième chose, on ne peut pas demander à des conseillères conjugales, qui souvent sont chargées de faire les entretiens, qui ont une formation dans la mesure de ce qu'elles peuvent avoir comme formation, de même certains psychologues rattachés aux établissements, et ce n'est pas toujours facile d'avoir dans les services hospitaliers des psychologues rattachés aux établissements, même au centre de planification, ne serait-ce que sur un plan financier, statutaire, etc. Donc dans ces différents cas, on a des personnes qui n'ont ni le temps, ni parfois une formation suffisante pour prendre en charge des choses qui sont très lourdes. Et ce n'est pas en un entretien, malheureusement, d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, même parfois un petit peu plus, où l'on peut toujours avoir le temps de tout saisir. Le fait que la loi ait été rallongée dans sa durée pourra permettre peut-être, dans certains cas, ce sera peut-être un effet bénéfique par rapport à d'autres qui sont pervers, mais en tout cas, aura peut-être la possibilité de donner justement un temps plus long pour une réflexion, pour un autre entretien, pour une prise en charge peut-être par une personne plus compétente que celle qui est en première ligne parfois au niveau du centre de planification quand il reçoit la demande. Mais je crois que ce n'est pas au niveau des chefs d'établissement, malheureusement, que les choses peuvent uniquement se régler. C'est un problème plus politique, financier, de moyens en personnel et en formation qu'on n'a pas toujours.
Oui, moi je voudrais intervenir parce qu'en vous entendant, je suis un peu révoltée. Je me dis que je suis future conseillère, je n'admets pas ce que vous projetez sur nous. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de discuter le statut des conseillères, où il est question que la formation passe de 400 heures à 600 heures, c'est l'occasion rêvée pour changer la formation et faire en sorte qu'on fasse des gens compétents, capables d'accompagner les femmes à prendre des décisions et que ça ait du sens. Moi, si vous voulez, je travaille là-dessus, je fais un travail là-dessus, mais je suis absolument révoltée de voir que finalement, bah, c'est comme ça, tant pis, ça va disparaître. Non, il y a trop de conséquences sur les femmes, et vous avez parlé de la TS, et ce qui a été mon point de départ de ma réflexion, je ne supporte pas ça. Donc,
si vous me permettez, on s'est mal compris. Parce que c'était au contraire pour défendre les conseillères et ne pas leur mettre justement sur le dos les problèmes qu'elles ont actuellement. Ce que vous dites, par contre, est très vrai. Quand je vous dis que c'est des problèmes plutôt, non pas de chef d'établissement ou de directeur de centre de planification, mais que c'est au niveau d'une prise en charge plus ministérielle ou autre, pour donner justement des possibilités de formation, c'est pour vous que je dis ça.
Merci.
C'est dans le même sens que vous, ce que vous venez de dire. Ce que je disais, au contraire, c'était pour dire qu'il ne faut pas mettre sur le dos de gens qui n'ont pas pu avoir une formation toujours correcte parce que les moyens n'ont pas été donnés et tout, que justement, on est dans cette situation. Et que c'est justement, mais au niveau du ministère de la Santé, du ministère des Droits de la Femme, etc., de débloquer des formations, de faire en sorte que les gens soient compétents. On est tout à fait dans la même direction. Alors, on ne s'était pas compris dans ce sens-là. Non, non, au contraire, au contraire.
D'autres interventions ? Oui.
Non, à ce propos, j'ai une petite réflexion. Je crois que les femmes auront moins de problèmes de conscience après une IVG si justement la société évolue vers le sens d'une plus grande, un plus grand respect de la femme, quoi, quelque chose qui va dans le sens du féminisme et de la meilleure intégration de la femme dans la société en général. Enfin, cette idée est très bien développée dans un livre que je viens de lire, que je vous conseille à tous. C'est le livre de Xavier Gauthier, IVG contraception, le combat des femmes du XXe siècle. Voilà.
Oui, alors, je sais pas, il marche là. Moi, je suis psychologue et psychanalyste et je fais des entretiens pré-IVG dans un planning familial. Et bon, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit parce que on met quand même tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces entretiens aient lieu, pour qu'ils puissent être multiples avant l'intervention. Vous m'entendez là ?
Oui. Oh, très bien.
D'accord. Pour avoir une écoute très attentive. Donc, bon, il faut quand même voir une chose, c'est qu'ils ne sont plus obligatoires quand même. Et que ça, ça a changé la qualité des entretiens, d'une certaine façon. Et pourquoi ne sont-ils plus obligatoires? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser. D'autre part, moi, je suis frappée par le nombre de jeunes filles, pas mineures, hein, mais de jeunes filles de 18-19 ans, qui viennent demander une IVG et qui se trouvent être des personnes à la personnalité extrêmement fragile, qui n'ont pas osé ni demander à leurs compagnons de mettre un préservatif, ni qui ne prennent pas de contraception, mais qui, le moment venu, ne savent pas demander, ne savent pas dire non, et qui se placent toujours dans le désir de l'autre. Et qu'elles n'ont aucun repère personnel pour dire non et pour imposer, d'une certaine façon, le respect d'elles-mêmes. Et c'est très difficile de travailler avec ce genre de personnes. Donc, c'est un témoignage qui... Bon, je ne prétends pas être plus compétente ou moins compétente que d'autres. Je crois qu'on fait... Enfin, quand on est amené à faire ce travail-là, on essaie de le faire bien. Et que, bon, on ne peut pas non plus... Enfin, on n'est pas magicien, d'une certaine façon. Donc, pour répondre à madame qui semblait scandalisée à propos des IVG qui avaient eu lieu, alors que... Et il faut voir qu'en face de nous, on n'a pas toujours de réelles demandes non plus. Hein. Moi, je sais que je propose toujours plusieurs entretiens, si c'est possible, avant l'intervention, et je propose toujours des entretiens après. Et les jeunes femmes, ou les femmes, reviennent rarement. Hein. Elles reviennent rarement après pour... Voilà.
Moi, je suis conseillère conjugale au centre de planification de l'hôpital de Romans. Et je suis vraiment, je vais dans le même sens que la personne qui vient de parler. Je trouve très difficile de faire ces entretiens. Pourtant, je vous assure qu'on y met tout notre cœur, tout notre savoir, que notre formation est quand même une formation permanente. On n'est pas conseillère conjugale comme ça du jour au lendemain. C'est une formation qu'on continue. D'ailleurs, on est là aujourd'hui dans ce cadre-là. Et je ne pense pas qu'on puisse le faire comme ça. Quand on banalise, moi, je ne crois pas qu'on banalise. Je crois que ça redevient tabou et que ça l'a toujours été. Et que la banalisation, comme vous dites, entre parenthèses, j'ai bien aimé le mot entre parenthèses, parce qu'on ne banalise jamais un entretien. Je n'ai jamais rencontré une femme dans mes entretiens, ça fait 15 ans que je pratique, qui a banalisé cet acte. Je n'en ai jamais trouvé. Mais là où je suis révoltée, c'est que je me dis que quand on travaille sur de l'humain, on n'est jamais sûr du lendemain. On n'a pas la boule de cristal. Un médecin qui travaille, il n'est pas sûr du résultat, parce qu'il travaille sur de l'humain. Même avec de grandes connaissances, un médecin sait qu'il peut achoper sur des tas de il peut dire, bon, cette personne, moi j'évalue qu'elle va en avoir pour 2 ans, pour 1 an, pour 6 mois, et 10 ans après, la personne, ou 20 ans après, ou 70 ans après, la personne est toujours là. Et Dieu merci, c'est comme ça. Et là où je suis aussi un peu en révolte, c'est que autour de l'IVG, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens, de choses comme ça, mais une personne qui accouche ou qui fait une fausse couche, elle se retrouve toute seule. Ou qui fait une IMG, elle se retrouve toute seule après. Et ça, c'est dramatique, tout autant que l'interruption volontaire de grossesse, où là, il y a peut-être un choix. Quand on fait une fausse couche, il n'y a pas toujours un choix. Mais la personne n'est pas du tout accompagnée. Elle se retrouve seule dans sa chambre avec son deuil à faire et ne sachant pas du tout comment s'y prendre. Et moi, je trouve que là, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de démarches à faire pour que les personnes soient entendues dans toute leur souffrance, quel que soit l'acte, et pas seulement l'interruption volontaire de grossesse. Je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de tabous et de, je dirais, de judéo-chrétiens là derrière, qui parfois me révoltent. Je crois que les femmes ou les hommes en souffrance ont besoin d'être accompagnés, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. C'est tout ce que je voulais dire.
C'est vrai que j'ai remarqué qu'en fait, au niveau de l'IVG, déjà, en fait, il... bien qu'il y ait des efforts qui soient faits. C'est vrai que les femmes, par exemple, au niveau de la RU, sont toujours surprises des effets. Soit elles n'ont pas compris, et c'est vrai qu'au moment de l'expulsion, elles se retrouvent seules. Bon, c'est vrai que nous, en tant que médecins généralistes, on va se retrouver confrontés à ces personnes, et c'est là où on peut les accompagner. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce moment-là. Oui,
oui, moi, je voudrais revenir simplement comme simple témoin, parce que je m'occupe de personnes. Et que c'est parce que je suis apparemment la seule à parler de l'avoir vécu, cette IVG, à 2 reprises, à 2 périodes complètement différentes dans ma vie. Mais il me semble que depuis ce matin, je suis un petit peu interloquée en essayant de chercher, peut-être que je n'ai pas compris, hein. Le thème de la réunion, c'est quelle parole face à l'IVG? J'ai entendu plein d'explications, mais je n'ai pas entendu quelles pouvaient être ces paroles enfin, je les vois pas, c'est parce que je suis peut-être pas du tout assez avertie dans le domaine, mais il y a aussi une chose qui m'interpelle, c'est que s'il faut aider toutes ces personnes, je suis entièrement d'accord, mais il faut aussi quand même penser qu'on est totalement responsable, chaque individu, de ce qu'on va décider, même si après c'est terrible pour certaines, mais il me semble qu'il faut parler un petit peu de la responsabilité de la personne, et là j'en ai pas entendu parler. Quand on décide une IVG, même si on se fait aider, même si c'est dur, même si on va rencontrer plein de choses, on a besoin d'être écouté. Il faut aussi, on prend ça pour soi, c'est nous-mêmes qui décidons. Et ça, personne ne peut totalement nous aider, parce que c'est chez soi qui prenons la décision. Et moi, il me semble que quand ça m'est arrivé, à l'époque où on ne pouvait pas le faire en France, j'étais à l'étranger. Je me souviens vaguement avoir eu un entretien avec un psychologue, mais dans ma tête, je l'ai laissé dire ce qu'il a voulu me dire. Moi, je voulais cette interruption de grossesse, et il pouvait me raconter tout ce qu'il voulait, je l'aurais fait, même si après, ça pouvait poser des problèmes.
Mais c'est juste...
On est quand même dans tous les cas, on est obligé d'être seul, c'est obligé, comme toutes les autres épreuves de la vie.
Oui, c'est certain, mais ce que je veux dire, c'est que probablement que dans les entretiens, c'est de permettre à la personne, bon, peut-être pas forcément juste au moment des entretiens d'IVG, mais au moins lui donner l'idée qu'elle pourrait faire d'autres entretiens, qu'elle pourrait en parler, et de comprendre comment en fait une décision, avant de devoir faire un travail sur soi, on a l'impression que c'est nous qui la prenons, alors qu'en fait on est héritière de tout un vécu de notre famille qui quelque part dicte nos actes. Donc c'est pour se dégager, mais c'est pas... Disons que je pense que le but n'est donc d'une part donc ni de juger et ni d'enfermer la personne dans une culpabilité et ni de lui dire c'est votre responsabilité, maintenant vous l'assumez et vous partez avec. Le but, il n'est pas du tout là.
Oui, je comprends bien, mais bien sûr qu'on peut être aidé, mais dans tous les cas, le psychologue ou qui que ce soit ne peut, ça peut être qu'une béquille. Jamais. Dans tous les cas, on est obligé de se retrouver face à soi-même.
Oui.
Je l'ai un peu induit ce matin. En fait, logiquement, dans un entretien pré-IVG, il y a peut-être une seule question qui devrait en fait jaillir chez la personne qui prend cette décision-là. C'est en fait de quoi a-t-elle peur quant à cette grossesse ? Mais de toute façon, un entretien IVG, pré-IVG, pardon, ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est pas possible. Hein. Mais a priori, ça devrait quand même amener à une interrogation. Le sens ne peut jaillir qu'à ce niveau-là.
Oui, moi je voudrais juste intervenir. Bon, quelle parole face à l'IVG ? Bien sûr, c'est la parole de la personne qui vient pour faire sa demande et pour être aidée à faire un choix. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir comme amorce d'élaboration ? Et je pense surtout aux IVG itératifs, parce que c'est déjà un objectif réussi quand une amorce d'élaboration a pu se faire, de façon à ce que ça ne revienne pas, et ça arrive, hein, que ça revienne à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce qu'on peut véritablement faire quand on est, comme c'est souvent le cas, dans l'urgence ? Quelle parole est possible dans l'urgence ? Et là, je pense particulièrement aux RU, et avec le délai des 7 semaines. Bien souvent elles arrivent, elles tiennent absolument à cette méthode là et il nous reste en gros une semaine, on va dire. Et ce qui se passe dans la réalité, c'est que la semaine entre le premier entretien et le moment où elles prennent leur décision, elle n'est pas respectée, hein. Il faut prendre un rendez-vous et elles veulent cette méthode là il y a très peu de temps et on est dans l'urgence. Ça court-circuite la pensée même et toute forme aussi d'anticipation de ce qui pourrait être une grossesse, enfin, de ce que ça pourrait être si elle gardait cette grossesse, de ce que ça sera si elle ne le garde pas. Ça court-circuite la pensée, et cette notion d'urgence, je pense qu'on l'évoque peu dans les entretiens pré-IVG et quand elles sont là, en fait.
D'autres questions ou interventions ?
Oui, j'en viens à la généalogie. Je pense que c'est intéressant parce que dans les entretiens, quelquefois, ces femmes-là, souvent seules d'ailleurs, reparlent de leur propre histoire et même de ce qu'elles ont investi autour de la naissance, de leur propre naissance. Elles refont, alors je vous rejoins, c'est vrai, pas avec les mots de la psychanalyse forcément, mais d'un témoignage intéressant, parce que quand on a le temps, et quand elles ont le temps d'élaborer cela, dans ces lieux-là, elles peuvent revivre leur naissance. Et en revivant leur naissance par rapport à leur mère, ce cordon qui les a reliés, je pense aussi à quand même un pédopsychiatre qui s'appelle Delassu, qui a parlé de la mémoire génétique aussi, et qui fait que l'enfant, comme ça, qu'il naît, est porteur de quelque chose, de la mémoire de sa propre mère, etc., sur le plan de la généalogie également. Mais je rejoins la personne d'ailleurs qui vient de parler pour penser que par rapport à la loi en elle-même, qui n'a évidemment jamais été bien réfléchie en profondeur, et vous avez raison de poser pierre par pierre, mais en espérant que vous arriverez à le faire jusqu'au bout, hein, je repense à cette loi où vraiment on n'a pas de, elle n'a pas le temps, parce que on lui dit d'ailleurs, ça c'est le secrétariat qui reçoit dans les centres de planification, surtout, les hôpitaux manquant de médecins qui pratiquent, qui n'ont pas mis de clause de conscience et qui pratiquent l'IVG, bien sûr, c'est l'urgence pour prendre le rendez-vous. Et quand on leur redit, bien sûr, mais vous allez pouvoir nous rejoindre dans ce lieu-là où vous avez commencé à élaborer quelque chose dans ces entretiens obligatoires, paraît-il, l'obligation pour moi ça ne veut rien dire, de post-IVG, elles s'échappent parce qu'elles ont déjà vécu, alors un RU 486 qui vraiment se fait dans des conditions sans accompagnement, où on leur dit même de regarder ce qui reste, hein, comme elles disent, des petites peaux, hein, que contient leur utérus, etc., où vraiment ça c'est un scandale. Alors je rejoins, je ne sais pas si vous êtes médecin, professeur, chef de service, ben, en tous les cas de vraiment de l'incompétence de l'État et des derniers décrets qui ont été mis comme ça en place, etc., sans élaboration psychique, sans ceci, sans cela. Voilà. Donc la question, ce n'est pas une question, c'est que vous dire, on en est là et j'espère que ça va évoluer. Mais enfin, on est dans l'espérance. Et je crois qu'il faut toujours être dans l'espérance, quoi qu'il en soit, parce que c'est quand même la vie. Je suis thérapeute de couple, thérapeute familiale systémicienne.
S'il n'y a plus de questions, un quart d'heure de pause et nous reprenons à moins le quart.